Eh bien, bonsoir, on refait comme si on n'avait rien fait. Donc, on démarre notre soirée avec un immense plaisir pour nous de recevoir Sylvaine, donc Pierre. Un plaisir parce que, comme je le disais à la fin de notre journée d'études, c'est un film que pour ma part, j'affectionne énormément, celui qui va être présenté ce soir, donc Le pays à l'envers. Alors, je vais présenter Sylvaine, je vais laisser Nora donc dire quelques mots sur le film lui-même. Et ensuite, on a, après le visionnage du film, un débat où je reviendrai peut-être moi-même sur le film parce qu'il fait énormément écho à mes recherches sur le monde paysan et tout ce qui est par rapport à la mémoire de l'esclavage, etc. Donc, tout d'abord, donc je présente Sylvaine. Donc Sylvaine est Dampierre et réalisatrice de films documentaires. Je me suis inspirée pour la présenter des éléments collectés dans la biographie disponible sur le portail du film documentaire, qui parle de la diversité des activités de Sylvaine dans le domaine de l'image, en mentionnant notamment sa participation aux côtés d'Alain Moreau à la création de Télérencontre, premier canal interne de télévision à la Maison d'arrêt de la Santé à Paris dans les années 90. Sylvaine a également été formatrice dans l'équipe des Ateliers Varan, centre d'initiation à la réalisation de documentaires créés par Jean Rouch. Et parmi les documentaires qu'elle a réalisés figurent les quatre films de la collection D'un jardin, l'autre, qui ont pour point commun de révéler l'existence de jardins à vocation sociale. Un jardin ouvrier au pied de l'usine Renault-Billancourt, Lille, en 98. Un jardin en milieu carcéral, un enclos, en 1999. Un jardin d'insertion à l'île de la Réunion, la rivière des Galets, en 2000. Et des jardins communautaires à New York, Green Guerilla, en 2003. C'est grâce à ces éléments biographiques, Sylvaine, je dois le dire, que j'ai compris, mais j'avais un peu compris avant ton lien au végétal. Mais j'ai quand même compris la généalogie de l'intérêt si clairvoyant accordé à la place des jardins dans le film qui a été donc que tu as réalisé en 2009, que nous allons visionner ensemble, dont le titre, je vous l'ai dit, est Le pays à l'envers. Et bon, j'avais fait un tout petit peu un résumé de ce film qui me paraît être une quête de l'identité à la Guadeloupe dont Sylvaine est originaire. Et on va saisir au fil des images, mais je vais le laisser parler Nora, la force du lien qui se fait vital entre le nom, la terre, le jardin et le corps pour venir dire l'esclavage et ses prolongements dans l'actualité des vies d'aujourd'hui. Et je laisse Nora nous présenter mieux ce film et peut-être parler du dernier qui vient de sortir, Voix nègre, peut-être. Voilà, Nora. Ton micro n'est pas branché. Voilà.
Mais il est maintenant. Bonsoir, bonsoir. Je suis très contente de présenter le film. En fait, ça fait des mois, cette journée aurait quand même dû se passer dans l'autre siècle, les millénaires et avant tout ça. Où est-ce que vous me voyez, tous ces gelés? Alors, aïe, aïe, aïe. Tous ces gelés, est-ce que vous m'entendez là?
On t'entend
Voilà.
un petit peu moins
Ouais.
bien que tout
Je
à
vais peut-être.
l'heure.
En fait, les murs sont épais chez moi et la box est en bas. Bref. Donc,
Voilà.
non, je suis très heureuse de présenter le film. D'autant plus qu'on avait aussi fait une présentation en fait du pays à l'envers à Columbia, qui aurait dû être le lieu aussi d'accueil à Paris de cette soirée, désormais virtuelle. Mais on avait fait aussi une présentation du film à New York il y a maintenant en fait 2 ans déjà. Et ce qui était formidable, c'est que alors déjà le livre, enfin le film était déjà ancien entre guillemets pour toi, Sylvaine, et en même temps, en fait, de l'interroger depuis New York par des professeurs de Africana Studies et qui parlaient depuis l'expérience diasporique depuis New York, l'avait complètement refertilisé de nouvelles optiques. Et il me semble que c'est la particularité, tu parlais, Christine, de métaphore ou de lien végétal. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui continue de fructifier, en fait, dans ce film. Et donc, je suis très très heureuse que finalement, 11 ans après sa sortie en salle, il puisse de nouveau être vu, discuté, débattu. Et donc, je voudrais juste dire une chose. En fait, finalement, je vais me charger du lien avec ce qui a été exploré, exprimé aujourd'hui. Je parlerai du film en dialogue avec toi et avec Christine après la projection. Mais vraiment, je pense que ça va. Enfin, le film va vraiment résonner avec des problématiques et aussi des éléments de documentation, de recherche, qui ont été évoqués par les interventions de cet après-midi. Donc Magali Claveau et Céline Flory. Encore une fois, voilà, autour de la question de la généalogie qui est vraiment fondamentale dans le film. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu mets en scène aussi une sorte de dialectique et de navigation entre la généalogie et en même temps quelque chose qui finalement ne suffit pas et qui est aussi de l'ordre de l'expression. Et c'est là où ton geste filmique, en fait, est extraordinairement vivant et où, du coup, ça passe aussi par la danse. Voilà. Donc, il y a cette navigation entre différents modes, en fait, d'appréhension de soi. Et j'aime beaucoup dans le synopsis aussi du film, c'est la Guadeloupe, enfin, d'appréhender, de se réapproprier la Guadeloupe ou sa Guadeloupe. Et peut-être que tu auras deux choses à dire sur, voilà, la Guadeloupe ou ma Guadeloupe. Voilà. Je crois qu'on peut... Le film fait combien de temps? Il fait une heure trente.
Le film, on l'avait prévu, me semble-t-il, est-ce que Stéphane, tu as le programme sous les yeux? On l'avait prévu à 20h15, me semble-t-il, quelqu'un a le programme sous les yeux?
Oui, bah c'est une autre... Sylvaine, tu peux peut-être...
Ok. D'abord, je voulais vous remercier de m'inviter à montrer mon film dans ce contexte. J'ai suivi de larges plages de votre discussion d'aujourd'hui et je suis évidemment ravie et tout à fait frappée par les multiples résonances que vos recherches ont avec, j'allais dire, mon travail totalement empirique de cinéaste. Donc, c'était extrêmement enrichissant et plaisant pour moi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression que ce film va comme ça proposer des échos à tout ce qui s'est dit aujourd'hui et à vos différents domaines de recherche. Et c'est vrai que bon, Le Pays à l'envers est déjà un film qui date un peu, mais dont j'ai pas l'impression en effet qu'il ait beaucoup souffert du passage du temps, que je vois pas très souvent, mais que en effet j'ai revu avec grand plaisir à Columbia. En effet, c'était comme une redécouverte. Et en effet, la puissance et la liberté des discussions qui se sont tenues dans cette ville et dans ce pays ont plus que rafraîchi mon propre esprit et mon plaisir d'avoir fait ce film. Donc voilà, c'était en effet un premier long métrage documentaire réalisé en Guadeloupe. Donc je suis originaire, enfin mon père était guadeloupéen, ma mère ne l'est pas, et c'est vrai que j'avais un rapport un peu distant ou un peu comme ça distancié avec la Guadeloupe jusqu'à ce que finalement j'investisse ce pays avec ce qui me passionne le plus au monde, c'est-à-dire le cinéma, à la fois pour l'enseigner, puisque effectivement je fais toujours partie de l'équipe des ateliers Varan et j'ai aussi créé Varan Caraïbes, donc une extension de cette école de cinéma documentaire en Guadeloupe, avec comme ça le désir fort de faire émerger quelques-unes des milliers d'histoires vraies que ce territoire peut déceler. Et donc, ce film a commencé un peu comme un pari. J'avais été invitée en Guadeloupe en fait en tant que cinéaste dans le cadre du mois du documentaire pour montrer mes autres films que j'ai réalisés dans d'autres pays du monde, dans la ville natale de mon père, donc Le Gosier. Et donc j'ai montré tous ces films avec grand plaisir. Ils ont reçu un accueil très intéressant du public guadeloupéen. Et j'ai aussi été particulièrement bien accueillie dans cette commune. J'ai fini par me retrouver devant le conseil municipal au grand complet. On m'a décerné la médaille de la ville. Enfin bon, au bout d'un moment, j'étais un peu intriguée quand même par l'ampleur de cet accueil. Et la personne qui m'a invitée, qui est devenue mon amie depuis, m'a dit « Mais c'est tout à fait normal puisque tu t'appelles Dampierre. » Et donc, quand j'ai proposé d'inviter une cinéaste qui s'appelait Sylvaine Dampierre, j'ai eu aucune difficulté à convaincre le conseil municipal. Elle me dit « Il faut quand même que tu réalises que tu es ici en tant que cinéaste guadeloupéenne et gosierienne. » À cause justement du poids de mon nom de famille, donc que je n'avais pas complètement mesuré jusque-là. Et donc j'ai relevé le défi en disant bah, tant qu'à recevoir tous ces honneurs, je vais essayer d'en être un peu digne en faisant au moins un film en Guadeloupe. Voilà, donc tout est parti de là et vous verrez comment j'ai vraiment tiré ce fil à partir de ces conversations et à partir de ce que j'ai vécu cette fois-là dans ce voyage en Guadeloupe. Et donc voilà, mon rapport à Lille s'est complètement fondé sur, encore une fois, sur le cinéma. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui me construit une part d'identité guadeloupéenne. Enfin, je la fonde vraiment là-dessus, parce que ça, au moins, j'en suis à peu près sûre. Pour le reste, c'est plus complexe, mais j'ai trouvé un lien. Enfin, j'ai construit, je crois, un lien avec ce pays. Et donc, voilà, j'ai pu, du coup, m'autoriser à réitérer 10 ans plus tard, puisque donc, avec Parole de Nègre, j'ai poursuivi ce travail. Et les deux films sont finalement vraiment liés, en tout cas pour moi, profondément liés, oui. Voilà. J'entends plus personne.
Si, si, non,
mais là, si, c'est parce que moi j'ai mon micro, je parlais dans le vide. Peut-être non. Dire que Parole de Nègre, Parole Nègre.
Non, Parole de Nègre, avec un majuscule Nègre et un S.
Parole Nègre partout, j'ai fait l'erreur alors. Parole Nègre qui est qui prend place sur l'île de Marie-Galante, peut-être, et qui alors là qui est une autre illustration, on pourrait presque dire que la place qu'occupait le jardin créole est occupée par cette usine qui est extraordinaire de signification. C'est presque une de la métallique végétalisée, j'ai envie de dire, quand on le voit, parce que le végétal et le métallique se confondent. Et les deux sont une trace d'appropriation, mais on va peut-être parler plutôt du pays à l'envers, puisqu'il ne nous sera pas possible de voir Parole de Nègre, mais j'espère qu'on aura l'occasion à l'une de nos journées, en clôture, comme on fait ce soir, de le présenter quand ce sera possible. Et en présentiel serait vraiment l'idéal.
Ouais. Voilà.
C'est sûr. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, alors moi, je vous propose de discuter ensemble de ce film, si vous le voulez bien. Vous pouvez intervenir aussi. Je vois qu'il y a des personnes encore derrière l'écran. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Je vais peut-être donner la parole à ceux qui le souhaitent. Ou Nora, tu veux intervenir, ou moi aussi. Hein, je souhaite te dire des choses, mais peut-être d'abord donner la parole à ceux qui ont vu le film et qui voudraient intervenir, Androula, Ferdinand.
Oui, oui, oui. Christine, moi j'aimerais d'abord merci pour ce magnifique film. Je n'ai pas pu le terminer là, mais je l'ai déjà vu. Mais c'était autre chose de savoir que d'autres le regardaient en même temps. C'était une drôle de façon d'être dans une salle de cinéma sans l'être. Donc c'était voilà, très particulier, et j'ai énormément de remarques, beaucoup de choses qui m'ont frappée dans ce film. Je commencerai par le dernier point que je voulais évoquer. Quand cette personne qui travaille sur le registre et les généalogies dit qu'on ne s'aime pas, qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre tête, comme si on nous avait mis un virus ou quelque chose comme ça dans la tête. Et même moi, c'est-à-dire lui aussi, qui pourtant connaît l'histoire, qui peut savoir, maîtriser un tout petit peu les généalogies et l'histoire, même lui, parfois, ça lui arrive de ne pas s'aimer. Et donc, ça m'a rappelé vraiment, et j'aime beaucoup ce que dit Achiz Nandi sur l'ennemi intime, c'est-à-dire justement cet ennemi qu'on a nous-mêmes, que même après les décolonisations, après la période coloniale, il y a quelque chose qui nous marque, et on se sent en quelque sorte une sorte de subalterne, et que le premier ennemi à vaincre, c'est cet ennemi intérieur, avant même de... Et ça, c'est vraiment, ça m'a frappé. Et je l'ai dit d'autant plus que moi, je viens, par exemple, d'un pays qui n'a pas été un pays où il y a eu de l'esclavage, mais de la colonisation quand même. Donc, une petite île, Chypre. Quand on était plus jeune, justement, tout ce qui venait donc de l'Angleterre, tout ce qui venait de l'étranger, tout ce qui était supérieur. Donc, il y avait quelque chose comme un sentiment d'infériorité sans savoir pourquoi. Et donc, je peux tout à fait comprendre, à puissance 1000, je dirais, parce que là, ce sont quand même des descendants d'esclaves qui parlent de ça. Donc, si c'est pas quelque chose à prendre en compte dans la notion donc de décolonialité, qu'il faut d'abord se décoloniser soi-même avant que cette décolonisation vienne de l'extérieur.
Oui, et puis ça dit aussi des choses de l'impact non seulement social et politique, mais intime de la
Oui,
colonisation, je veux dire,
c'est ça.
et l'écho de cet impact. Mais c'est vrai que cette phrase qui déboule comme ça dans le plan tourné, évidemment, sans que ni son émetteur, ni moi-même n'ayons pu la prévoir ou la
Ouais.
prévenir, c'est vrai que ça, voilà, ça explose. Et ça me rappelle toujours la réaction du public aux Antilles au moment de cette phrase. C'est un immense éclat de rire collectif. Ça a été systématique.
Ah
Alors,
oui.
on connaît le rôle du rire, comme du rire de défense, enfin.
Oui,
Mais
donc
évidemment, ça n'a jamais provoqué la même réaction dans d'autres publics, qu'ils soient français ou d'ailleurs. Mais aux Antilles, c'était la signature, quoi, comme quelque chose qui est lâché. Un peu comme une bombe, toi, et qui explose dans les rires du public. Donc, et en même temps, cette phrase est aussi une antiphrase. Enfin, évidemment, il faut entendre ce qu'il dit et son contraire.
bien sûr.
Et j'aime beaucoup l'écho intime, justement, qu'il y apporte en disant, on ne sait pas dire je t'aime, moi-même, je ne sais pas. Enfin, voilà, tout d'un coup, on accumule comme ça les couches d'écho. Enfin, c'est très émouvant en plus de la part
Oui.
de ce grand personnage, si voilà, avec cette stature, cette voix de stentor, ce côté souvent péremptoire qu'a Monsieur Rogers. Là, on voit que vraiment l'armure se brise, quoi,
C'est
complètement.
ça.
Et en même temps, oui, enfin, intuitivement, moi, je reconnais cette phrase. En fait, je la reconnais souvent. Enfin, je la reconnaissais même dans la façon dont je vois les gens parfois aux Antilles. Il y a effectivement ce désamour de soi, cette auto-agressivité, cette agressivité partagée, cette incapacité à s'aimer, à aimer. Enfin, c'est très juste et on peut vraiment le constater. Enfin, il y a des expressions comme ça qui sont galvaudées mais qui résonnent comme être mal dans sa peau, enfin, au sens
Ouais.
propre. D'ailleurs, il en parle très bien aussi, hein, puisque avec cette classification des teintes de peau, on est exactement là-dedans. Donc c'est des choses que j'avais reconnues, mais qui là, enfin que je, bah, qui là, c'est une chose qui est formulée d'une façon incroyable à ce moment-là, quoi.
Oui, c'est très fort quand c'est comme moment, j'ai trouvé.
Et
Après,
si
j'ai
je puis me permettre, le moment qui fait écho à ce moment-là, qui suit et qui est celui où on dirait que ça a presque été voulu, alors que ça ne l'est pas, c'est aimer l'amour de son jardin et c'est s'aimer soi-même.
Oui,
Et
bah c'est bien sûr.
c'est la réponse,
Bah, c'est bien sûr dans le processus du montage, effectivement, évidemment, évidemment voulu. Voilà, il faut qu'on entende ces deux phrases dans cet ordre-là, ces deux phrases qui m'ont été données et qui, voilà, qui viennent, je dirais même pas s'annuler, mais s'enrichir l'une l'autre, quoi.
Non, mais quand je disais qu'elles n'ont, bien sûr, il y
Ah
a un
oui,
sens.
elles n'ont pas été placées,
Voilà.
évidemment, elles n'ont pas été
Le fait
dictées.
qu'elles aient été énoncées
Absolument, ouais.
spontanément, c'est ça
Sur le
qui
même
fait ça.
chemin,
Voilà.
effectivement, j'ai entendu ces deux choses-là qui, encore une fois, pour moi, ne s'annulent pas, mais s'agrègent et se complètent, quoi. Donc, bah, il était naturel que le montage, effectivement, les agrège et complète. Et dans ce sens-là, tant qu'à faire, ça paraissait plus pertinent.
Ouais.
Et parce qu'il y a aussi, effectivement, bah, la recherche de tout ce qui fait lien, de tout ce qui ancre, de tout ce qui enracine, de tout ce qui répare. Et parmi ça, bien sûr, le rapport très physique à cette terre est essentiel, quoi. Et le fait qu'on l'ensemence, c'est de toute façon un geste de renaissance, de réinvention de soi, qui est totalement indispensable à ce peuple-là. Enfin, je veux dire, et le symbole de ça, c'est effectivement le fait de cultiver cette terre. Voilà. Cette terre qu'on n'a pas choisie, mais qu'on a su, même que les esclaves eux-mêmes ont eu l'occasion de enfin, dans laquelle les esclaves eux-mêmes ont eu l'occasion de semer des choses. Et ce geste-là, il est fondateur d'un il est ambivalent, parce qu'il est fondateur d'un renoncement. Enfin, je veux dire, planter quelque chose, c'est renoncer au retour. Et en même temps, c'est le début de d'autres choses. Et les Antilles, c'est ça. Enfin, ce peuple-là est né de ce déplacement, de cet arrachement et de ce renoncement au retour, enfin, et de cet enracinement. Alors, fragile, mouvant, mais réel. Et en plus, fécond. Enfin, moi, je suis assez fascinée par la richesse aussi de ces cultures, enfin, tout ce que ça. Toutes ces langues, toutes ces musiques, et puis tous ces corps, et puis enfin tout ce que j'aime profondément voir et filmer dans ce tout petit pays qu'est la Guadeloupe.
Oui, il y a comme un concentré de tout et de son contraire. Il y a ce désamour et cet amour très fort en même temps, de la déshumanisation et une humanité immense. Et on le sent sans arrêt, c'est palpable. Et le film, ça aussi, le donne à voir, le donne à sentir. Cette double face constamment présente, et qui est d'ailleurs un peu à la base du travail qu'on veut conduire dans ce groupe en parlant de ce lieu, de creuser de cette modernité avec sa face cachée qui est toujours absolument omniprésente. Mmh. D'autres interventions peut-être? Esteban, tu veux intervenir? Pas spécialement?
Bon, ouais, c'était juste peut-être une question de quelque chose qui m'a paru très intéressant. Et c'est évidemment très intéressant, cette narration à partir de l'intime. Et je voulais te poser la question. Et de rapport au corps et au mouvement, parce que il y a on voit s'intercaler des images de quelque chose qui se raconte par les mouvements, par les corps, par la danse. Et moi, je trouvais ça très très intéressant. Je voulais te demander de nous raconter un peu comment tu as tissé cette relation entre l'intime et les rôles du corps, des images du corps, du mouvement.
Comme j'expliquais tout à l'heure, comment dirais-je, l'étincelle anecdotique, c'est l'histoire de mon nom et derrière, enfin, de mon nom de famille qui me désigne et qui me confirme une appartenance bien plus solide que celle que je m'autorisais à vivre. Et donc, je tire ce fil-là qui me ramène aux archives, dans l'histoire, dans cette histoire de dation des patronymes. Mais à partir de là, forcément. J'allais dire, c'est vraiment cette entrée-là. Alors, ce nom-là, c'est aussi le nom de mon père, tout simplement. Enfin, je raconte un peu les associations, quoi. Évidemment, ce pays-là, c'est aussi le pays de mon père. Donc, ça passe forcément, en tout cas pour moi, le chemin, c'est vraiment un chemin à rebours, quoi. Je remonte, je m'imagine en bas d'une falaise en train de d'enrouler cette corde et de remonter petit à petit. Donc, je tire le fil vraiment au sens propre de cette histoire. Et du coup, la question des traces, vous avez parlé de ça toute la journée, cette absence de traces, cette évanescence des traces, cet effacement systématique des traces, cette pénurie de traces. Donc, qu'est-ce qu'il reste? L'esclavage n'a pas laissé de monuments, il a laissé quelques traces dans les archives. Et puis, pensais-je, forcément des traces dans le paysage et dans les corps. Enfin, pour moi, c'est là qu'il fallait les chercher, dans le pays et dans les gens. Dans les visages, bien sûr, mais aussi, alors là encore, une forme d'intuition. Enfin, c'est ce qu'on ressent quand on va aux Antilles et qu'on regarde autour de soi. Je crois qu'on est tout de suite saisi par ce que racontent tous les corps que l'on croise dans leur diversité. Ça me paraît. Donc, moi, je suis cinéaste, je travaille sur les intuitions et j'essaye de les transformer pour le spectateur en sensations. C'est un peu ça mon travail, enfin, ce que j'essaye de faire. Donc, du coup, à partir de là, j'ai essayé comme ça de regarder un peu toutes les directions où je pourrais déceler ces traces. Donc, il y avait celle que m'indiquait, quand je parle de voyage à rebours, il y a celle qui m'indiquait le trajet de mon père. J'avais cette anecdote de l'usine, c'est un lien faible, mais ça m'autorisait à m'engouffrer dans cet univers-là. Et puis, cette intuition que les corps avaient quelque chose à dire et en l'occurrence, la chorégraphe qu'on rencontre dans le film, c'est quelqu'un dont j'avais entendu parler, mais qu'on a très vite mis sur ma route, donc quelqu'un à qui il fallait que je parle. Et nous sommes parlé avec Léna, et cette longue conversation qui s'est concrétisée que deux ans plus tard au cours du tournage, a été extrêmement féconde. C'est-à-dire qu'effectivement, elle travaille, c'est son objet, ce qu'elle appelle la technica, c'est-à-dire une façon comme ça d'analyser et de rendre transmissible quelque chose de la danse traditionnelle et de théoriser dans cette théorie du geste et du déséquilibre tout ce qui peut être l'identité antillaise. C'est l'œuvre de sa vie, elle la poursuit encore. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, une personne ressource extraordinaire, quoi. Donc, après, je fais le lien, je trouve aux archives, au milieu du microfilm, je retiens ce nom de Jeannette Ignoré et je la porte à l'ENA. Elle en fait en direct, elle l'interprète, elle la crée, elle la fait revivre. Enfin, tout mon travail consistait là à essayer de faire émerger des choses à partir du néant, du peu qu'il reste. Et donc, et puis après, on continue de se croiser autour de l'usine. Donc, elle m'offre ce qu'elle est, son travail, son corps, la chorégraphie qu'elle fait naître pour moi devant la caméra, qu'on voit naître dans l'atelier, puis ensuite qu'on reproduit sur place, mais aussi ses élèves et du coup toute une génération de jeunes gens, de jeunes filles en l'occurrence, ce bouquet de jeunes filles allongées sur le parquet. Enfin, c'est une série comme ça d'emboîtements et de correspondances qui compose ce film. Donc, c'est vraiment la reconstitution de mon chemin. En fait, le film parle de lui-même, et de même que je reconstitue ma rencontre avec Michel Rogers. Parce qu'en fait, comme il était question de nom de famille, forcément, je suis allée aux archives un matin et j'ai très péniblement appris vaguement à fixer le rouleau de microfilm. Et puis, j'ai commencé à chercher, et très vite, je me suis perdue. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout dans une quête généalogique, mais cette recherche, tout cet univers, ce lieu, ces bruits et ces listes ont déclenché chez moi un énorme imaginaire, et je me suis mis vraiment à rêvasser et à élaborer comme ça, à regarder tous les noms. J'avais complètement perdu mon fil. Et c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. J'ai repéré ce grand type qui fait 1m95, qui a une voix de stentore, qui est le seul dans ce lieu d'archives qui ne chuchote pas. Il parle fort et avec une voix, voilà, il s'impose. Et forcément, il m'a attirée, je l'ai rencontrée, je lui ai raconté mon histoire. Et mon nom de famille, Dampierre, m'a-t-il dit, mais il y a forcément une histoire derrière. Voilà, donc c'est exactement ce que le film raconte, non pas en direct, en l'occurrence, bien sûr, on a reconstitué cette scène. Mais en même temps, on a retrouvé exactement les mêmes circonstances. C'est-à-dire que M. Rogers est à nouveau parti dans ses recherches au présent de ce qui était filmé. Donc il y avait toujours cet effet comme ça étrange que le film, raconte cette quête, mais vraiment très littéralement, quoi. Et à la fois il montre ce que j'ai trouvé et il essaye de montrer comment j'y suis arrivée. Et il y a des choses qui sont en direct, par exemple, donc Monsieur Rogers s'est saisi de mon nom de famille et il a fait ses recherches de son côté. Et puis on s'est revu quasiment un an plus tard et là il avait déroulé le fil. Parce que bon, vous avez parlé d'archives tout à l'heure, mais ce personnage est incroyable parce qu'en fait, lui, quand il ouvre une archive, enfin en l'occurrence un rouleau de microfilm, il le lit de A jusqu'à Z. C'est-à-dire il le lit dans l'ordre et il lit tout. Et il prend des notes très étranges sur des grands cahiers avec tout un système de stabilo, rouge, vert, bleu, que j'ai jamais rien compris. Mais du coup, il enregistre dans son esprit toutes les informations, il les engrange. Et après, il les reconnecte. Donc voilà, Dampierre, ça lui disait quelque chose, mais c'est 6 mois plus tard qu'il s'est rappelé de cet acte de baptême qu'il avait lu, que moi, j'aurais jamais pu trouver. Jamais, je veux dire. Et en fait, M. Rogers trouve parce qu'il ne cherche pas. Et donc, c'est un homme qui vit à la fois maintenant et au 19e siècle, en direct. Il est dans ces deux temporalités tout le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on voit quand il va dans la famille. Il dit, moi, quand je vois ici, je vois... Mais c'est vrai, c'est profondément vrai. Il est alors quand on rencontre un personnage comme ça, alors qu'on est en train de commencer à rêver un film, je veux dire, on se dit que ça va bien aller, que ça va bien se passer, n'est-ce pas, Nora? Donc voilà, c'est vraiment une quête un peu à l'aveugle. Moi, je pars sans savoir, sans rien connaître sur l'histoire de mon famille, sans même avoir jamais entendu parler de la dation des patronymes. Vraiment, je suis, je découvre et j'associe et je fais ma pelote avec toutes ces découvertes ou redécouvertes.
Juste, j'aimerais bien rebondir sur ça. Ce pouvoir de la fiction, parce qu'il y a quand même des choses vraies, il y a des archives, mais tu fais une histoire. Donc et en même temps, c'est une façon d'imprimer en fait le résultat de cette quête, de ce travail dans les archives, d'une façon indélébile. Ce sont des images qui restent. Et justement, ce pouvoir donc, de la fiction et de l'art d'incarner et de performer l'archive. Parce que là, on n'est pas devant des documents qu'on lit ou pour faire un article, on est devant quelque chose qui a été performé, qui a été incarné. Donc du coup, même bon, pour moi qui ne connais pas la Guadeloupe, il y a quelque chose de l'ordre du vivant qui s'est dégagé de cette quête dans les archives. Donc j'aime bien cette idée et je ne sais pas ce que tu en penses. Incarner, performer l'archive, est-ce que ça te...
Oui, bah c'est exactement ce que j'essaye de faire. Précisément ce que j'essaye de faire. Encore une fois, enfin, cet univers des archives est un univers qui m'a procuré énormément de sensations, d'impressions. Enfin, j'ai passé aussi un peu de temps au Caran, parce que bon, ça fait pas partie du film, mais j'ai aussi fait des recherches sur la famille de Dampierre, par exemple. Enfin, ça n'a pas trouvé sa place, mais je l'ai fait. J'ai même rencontré le descendant de la famille de Dampierre. Enfin, bon, toute une histoire. Mais j'étais donc au Caran et j'ai demandé donc les archives de la famille de Dampierre. Et donc, on m'a amené une boîte. Et dans cette boîte, il y avait un parchemin que j'ai un vrai, un original que j'ai déplié, qui a fait crack dans mes mains. J'ai trouvé ça insensé qu'on puisse me confier un document original du 13e siècle, je crois. C'était un extrait de livre de contes du château du comte de Dampierre. Enfin, et donc pour moi, enfin, c'est fascinant les archives, quoi. C'est quelque chose d'incroyablement romanesque, d'incroyablement. Enfin, moi, je voyais. Alors, j'étais au Caran, donc, enfin, vous voyez, le Caran, ça n'existe plus. Enfin, j'imagine, vous voyez ce que c'est. Donc, beaucoup de gens font. Il y avait une section où les gens regardaient les microfilms qui sont aussi à Aix, donc toute l'histoire coloniale. Et donc, on était dans des cabines comme ça, et j'étais entourée de gens. Encore une fois, je me laissais distraire de mon objet pour essayer d'imaginer ce que les autres étaient en train de chercher. Et tout d'un coup, j'avais l'impression que c'était toute l'histoire coloniale de la France qui se dépliait autour de moi. Et je me disais, il suffirait, je voulais faire un film comme ça, d'ailleurs, enfin, où on passerait derrière les dos des gens et où on entendrait ces bribes d'histoire de l'Algérie, des Antilles, remonter comme ça. Enfin, moi, les lieux comme ça d'archives, enfin, les centres d'archives éveillent ce genre d'imaginaire en moi tout de suite, quoi. C'est immédiat. Et ce qui fait que je suis très inefficace pour aller faire une recherche, parce qu'au bout de 3 heures, je suis partie ailleurs. Et voilà. Donc, heureusement, j'ai trouvé Monsieur Rogers, parce que je pense que j'aurais été totalement incapable, même de retrouver les noms de mes ancêtres dans le fameux microfilm, même s'ils étaient finalement. D'ailleurs, vous avez vu quand il me dit, il y en a, bon courage, il y en a, je ne sais plus, 2000, me dit-il, j'ai un vrai moment de découragement, mais parce qu'à ce moment-là, je le fais pour de vrai, quoi. Et en fait, ils étaient dans. Et en plus, je me dis, non seulement je ne vais jamais les trouver, mais en plus, là, le tournage, ça va durer des heures, enfin, on ne va jamais y arriver. En fait, ils sont dans les 20 premiers. Donc, voilà, ils m'ont sauté aux yeux tout de suite. Mais oui, pour moi, les archives sont. Enfin, appellent, force. Enfin, font image, enfin, font présence. J'ai vraiment l'impression d'être. D'être appelé par tout ce que par tout ce que ces documents contiennent, quoi. Vraiment, mais très physiquement. Ça me fait ça à chaque fois, quoi. Beaucoup plus que dans un musée où il y a vraiment pour moi quelque chose de très spécifique et de très physique dans le contact avec l'archive. J'ai toujours vécu comme ça.
Et trouver des points communs et des arguments à donner à Didier cet après-midi qui voulait montrer. Cette sensorialité du document lui-même.
Oui, oui, voilà, j'ai entendu ça, effectivement, ça a résonné très fort. Ouais. Et d'ailleurs, c'est encore une autre archive que j'amène donc à cette fameuse usine pour le film que je viens de faire, quoi. Il y a quelque chose d'essentiel pour moi. Surtout, enfin, je ne suis pas historienne, je n'ai pas fait d'études d'histoire, Donc, c'est une première plongée, hein, mais je suis un peu tombée dedans. Et c'est vrai que voilà, c'est une autre archive, confiée d'ailleurs par M. Rogers à l'issue de ce premier film, qui a provoqué le deuxième, en l'occurrence des actes de procès, d'un procès de maître, où sont transcrits les témoignages d'esclaves. Donc, voilà.
Ferdinand, tu veux peut-être intervenir, hein? Tu as des commentaires? Tu n'es pas obligé, hein? Je donne la parole. Et puis,
Non, je voudrais bien dire quelque chose. Bon, j'étais fasciné, je trouvais magnifique. Je me rappelle plus, je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose pareil. En fait, c'est la première fois, je pense, que j'ai vu des images de Martinique.
Guadeloupe.
Ah, c'est égal pour moi. Non, mais franchement, je regarde pas beaucoup des images, mais ce qui m'a frappé, c'est que comment ces images ont confirmé l'image que j'ai eue des Caraïbes en faisant la lecture de la région. Donc ça m'a beaucoup frappé, la façon que les images ont correspondu oui, avec ma lecture. Mais j'ai juste deux petites questions. Un, c'est le titre. Je n'ai pas tout à fait compris et je ne sais pas s'il y a une histoire à raconter là-dessus. Et l'autre, c'est très bizarre. Donc, la famille, je me rappelle plus le nom, ou bien les deux familles portent les mêmes patronymes, mais sont distinguées par noir et blanc, n'est-ce pas? Et bon, tout de suite, je me suis dit, ben, peut-être on comprend ça dans comme un patrimoine, un héritage de l'esclavage. Mais j'ai trouvé exactement la même chose dans un village au Sénégal où j'ai fait mes recherches, où on fait la distinction parmi deux branches de famille comme noir et blanc. Et bon, ça m'a juste frappé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus.
Oui, ben, en l'occurrence, oui, quand même, parce que, en fait, y a la famille des colons qui sont la famille de Dampierre, donc il y a la particule en plus, et donc c'est une vieille famille française qui remonte, dont les archives écrites remontent donc au 12 ou 13e siècle, et dont une des branches a émigré en Martinique puis en Guadeloupe au 17e siècle, et qui l'autre branche est à peu près, c'est beaucoup appauvrie en France, et en fait ils ont refait leur fortune en deux ou trois générations dans le sucre et dans la possession d'esclaves. Et ensuite, ils ont quitté les Antilles et ils sont rentrés en Europe, ils ont racheté des châteaux, etc. Et ensuite, dans la généalogie, on compte des généraux d'empire et des sénateurs, etc., etc. Donc, c'est une vieille famille noble française qui s'est régénérée dans l'esclavage, en fait, dans l'exploitation d'esclaves. Et donc, ça, c'est et il se trouve que cette famille a laissé une partie de son nom, donc sans la particule, sur le territoire des Antilles, puisque donc un bout du territoire s'appelle Dampierre. Là, c'est là où ils avaient établi leur habitation. Donc c'est un lieu dit aux Antilles, en Guadeloupe. Toutes les sections, c'est-à-dire des sections de canton, portent pratiquement toutes des noms de maîtres. Donc la géographie même porte la trace de l'esclavage. Et normalement, donc si ce nom-là est resté sous cette forme, Dampierre, M. Rogers m'a tout de suite dit, c'est parce que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, les esclaves auxquels on a attribué des noms en 1848 ne pouvaient pas reprendre le nom de leur maître, jamais. Donc si moi je m'appelle Dampierre, c'est que mes ancêtres esclaves avaient pu faire valoir à ce moment-là, en 1848, leur droit à reprendre ce nom. Et donc l'hypothèse de M. Rogers, c'est que ce droit pouvait remonter au fait que donc un des le chevalier de Dampierre, donc le blanc, avait eu un enfant illégitime avec une esclave, l'avait affranchie et lui avait donné son nom. Voilà. Donc, effectivement, c'est vraiment deux branches totalement divergentes qui n'ont plus aucun espèce de rapport familial. C'est vraiment une petite accroche et puis sans doute un acte d'affranchissement qui, à un moment, a pu donner, dont a pu se prévaloir l'esclave affranchi en disant ben, « moi, j'ai un nom voilà. ». J'ai un nom puisque il y a deux générations où ma mère ou ma grand-mère a été affranchie et nommée. Ils avaient été entre-temps remis en esclavage puisque donc en Guadeloupe, il y a eu deux abolitions successives et entre les deux, les gens ont été souvent remis entre 1802 et 1848. Donc voilà, donc, c'est en cela que mon nom a une histoire particulière. Et donc effectivement, c'est vraiment deux branches. Et bon, la famille blanche, en l'occurrence, est totalement retourner en France, il n'en reste plus aucun membre aux Antilles. Donc, ils sont venus, ils ont refait fortune, ils ont laissé quelques gènes et puis ils sont rentrés, quoi. Donc, c'est vraiment un aller-retour sur deux ou trois générations et voilà. Mais par contre, le nom de Dampierre et la trace sur la carte, le canton de Dampierre, sont restés, et voilà. Donc, c'est ça l'histoire du nom. Et l'autre point, c'était
le titre.
Oui, alors le titre, le pays à l'envers. Donc, en fait, il y a plusieurs acceptions dans ce titre. Ça correspond à une expression créole aussi, qui est le pays pied pour tête, c'est-à-dire le pays avec les pieds à la place de la tête, qui est une expression qui sert à désigner comme ça tous les moments où le pays dysfonctionne, où les choses se passent mal, où justement les gens ont... Il y a cette espèce de côté un peu décourageant. Donc, on dit voilà, que le pays est vraiment à l'envers. Quoi. Quand ça part en sucette, quand tout le monde s'engueule, par exemple, la première fois que... Enfin, je vous racontais l'autre fois que j'étais allée aux Antilles pour le mois du doc. Et donc, j'étais devenue très amie avec la bibliothécaire Gilda Gonfier. Et donc, on sillonnait la Guadeloupe avec sa voiture de service pour aller montrer des films à droite à gauche. Et en fait, quand je suis arrivée, il y a eu un incident dans une station service. Je suis restée 10 jours et à la fin, c'était grève totale de l'essence et l'armée, les camions d'essence étaient comme ça, escortés par l'armée. Donc, on croisait des convois militaires et tout ça en une semaine, quoi, tout d'un coup. Et les syndicalistes de l'UGTG étaient... au terminal d'essence avec un briquet allumé en disant on va tout faire péter, voilà. Donc les choses avaient gonflé très vite. Et donc voilà, c'est à ce moment que j'ai découvert cette expression de le pays à l'envers. Et du coup, ben, pour moi, c'est aussi le voyage à rebours. Hein. Je fais le voyage de mon père à l'envers, enfin oui, à l'envers, à rebours. Et puis aussi l'idée que ce pays-là est aussi tant un miroir à la France, dans laquelle la France ne se regarde pratiquement jamais. Mais pour moi, c'est l'image à l'envers comme on l'a dans... Enfin, je pense que les Antilles tendent vraiment un miroir à la France dans lequel elles feraient bien de se regarder. Parce que je ne vois pas comment ce pays-là, je parle de celui sur lequel nous sommes en ce moment, peut vraiment se comprendre en faisant l'impasse de l'histoire coloniale. Enfin, ça me paraît tellement absurde. Comment est-ce qu'on peut comprendre le monde d'aujourd'hui si on est incapable d'ingérer cette histoire-là nationale. Moi qui suis donc métisse, je comprends pas que la France se prive de cette clé de lecture de ce qu'elle est et du monde. Quoi, voilà. Donc voilà, c'est tout ça que ça veut dire le pays à l'envers.
Nora, tu veux commenter?
Je crois que maintenant le pays à l'envers est aussi devenu une trace pour toi d'un moment aussi de... Vous m'entendez?
Oui, ça va.
Ouais, bof.
Non, mais je te signalerai s'il faut que tu ouvres la porte, parce qu'il me semble que le son est moins bon. Mais vas-y, continue. Tu sais, quand tu as ouvert la porte...
Ah oui. Ouais. Je sais, mais désormais, il y a une enfant qui dort, donc j'ai fermé la porte, voilà. Oui. mais non, il y a aussi la place dans le pays à l'envers. Tu laisses la place à des archives, justement, aux archives privées en Super 8. Mm-hmm. Donc, tu inscris aussi ta quête dans ta place intermédiaire à la fois de fille et de mère. Mm-hmm. Et donc, c'est une trace de ce moment-là. Et je me demandais, donc désormais, 11, 12 ans plus tard, voilà, de quoi c'était la trace et aussi de peut-être de quel moment on est dans un moment, à mon sens, politique différent, ou peut-être que on pourrait peut-être dire que aussi le déni de ce miroir s'est sédimenté, mais j'aimerais bien savoir voilà, comment tu regardes ce film désormais et comment s'il a été réactivé ou mis à distance aussi par Parole de Nègre que tu viens de terminer, et non sans difficulté, hein, ce qui est pour moi clairement l'indicateur d'un certain climat politique, hein, la difficulté avec laquelle tu as fait Parole de Nègre. Mais voilà.
C'est-à-dire que j'ai eu exactement la même que celle que j'avais eue 10 ans plus tôt pour faire Le Pays à l'envers. J'ai mis 5 ans à finir Parole de Nègre, je parle en termes de production, hein, et j'ai mis 5 ans à faire Le Pays à l'envers aussi. Donc 10 ans plus tard, je me suis retrouvée affrontée exactement aux mêmes obstacles, au même endroit, au même moment, par les mêmes. Voilà. Les mêmes remarques, enfin, je suis vraiment partie en me disant non, mais c'est bon, là, maintenant, 10 ans plus tard, on va y arriver. Et en fait, non. Enfin, je parle là de l'infrastructure en France auquel un film comme ça peut s'adresser, pour recevoir toujours le même silence gêné, le même refus condescendant. Le même retour à comment ils appellent ça, le particularisme, à ces histoires qui sont vraiment trop locales pour être intéressantes. Enfin, c'est terrible, mais je veux dire, bon, nos responsables du cinéma français sont capables de s'intéresser à peu près à n'importe quoi, je veux dire, à n'importe quoi de très lointain, mais sont toujours très réticents et gênés aux entournures quand on vient leur proposer de regarder ce pays-là et de s'intéresser à cette histoire-là. Voilà, en gros, la remarque est toujours la même, est-ce bien nécessaire ? Voilà, je suis toujours affrontée à ce même « est-ce bien nécessaire ?». Donc, mais ceci dit, c'est vrai qu'en 10 ans, voilà, d'un point de vue personnel, évidemment, les choses ont la vie, voilà, la vie avait son œuvre. J'ai perdu mon père, mon fils vient de se marier. Enfin, bon, le temps passe. mais sinon, oui, je pense que ce film, il arrivait au début, en fait, hein, vers le début de cette réappropriation de l'histoire par les Antillais. Et c'est vrai qu'elle s'est bien déployée depuis, vraiment, et dans beaucoup de générations. C'est vrai que M. Rogers pouvait se plaindre, c'est encore vrai qu'aux archives, on ne voit que des retraités qui essayent de faire des actes de partage de terrain pour des histoires d'héritage. Mais aussi, enfin, on le sait, il y a des mouvements très importants comme CM98, enfin, ce mouvement-là de retour très précis vers les origines, il s'est largement répandu. Et puis, cette histoire de l'esclavage, oui, je pense que, en tout cas là-bas, aux Antilles, elle a droit de citer. On rencontre encore des gens, j'en ai rencontré une la semaine dernière, une prof qui me demandait ça parle de quoi votre film ? Je parle de Parole de Nègre. Et bon, bah, je dis, voilà, c'est un film qui se passe dans une usine sucrière, qui parle du travail et aussi de la mémoire de l'esclavage. Elle a quasiment fait 3 tours sur elle-même en disant, mais il faut arrêter avec ça. Donc, on entend encore ce genre de discours, mais ça, bon, à la limite, les gens... Mais quand même, il y a une vraie imprégnation quand même de cette histoire, qui vraiment a commencé il n'y a pas si longtemps, quoi, à peu près au moment où moi, j'ai commencé à faire ce film. C'est un hasard, mais c'est vrai, quoi. Et par contre, oui, ça a bien pris et fleuri, quoi. Donc maintenant, alors en même temps, voilà, il y a aussi d'autres imaginaires qui se déroulent, hein, le rapport à l'Afrique, etc. C'est un petit peu plus difficile de regarder la complexité de sa propre histoire antillaise, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que disait M. Rogers. Donc, M. Rogers, comme vous l'avez compris, il a dressé comme ça une forêt d'arbres généalogiques et il les a proposés souvent à des familles. Mais les gens se rêvent plus facilement héritiers d'un roi africain que d'un petit propriétaire, y compris noir affranchi, qui lui-même a eu 4 ou 5 esclaves. Vous voyez, c'est, donc, C'est vrai que cette histoire-là, encore une fois, dans sa complexité, qui n'est pas faite que de marronnage et de batailles gagnées, elle est plus difficile à s'approprier. Mais en même temps, moi, c'est elle que je défends, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis profondément émue par tous ces destins de survivants, quoi. Par cette résilience qui a fondé ce peuple. Alors, bien sûr, il y a eu des marrons, bien sûr, mais pas que. Enfin, je veux dire, le peuple antillais est un peuple d'affranchis. Il faut quand même le savoir. Mais moi, je trouve qu'il y a de la noblesse à ça, avoir résisté en vivant et en faisant des enfants et en s'assurant une descendance, justement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais donc les choses ont changé, mais en même temps, je crois que le pays à l'envers résonne toujours, parce que je le montre encore aux Antilles, presque de la même façon, y compris auprès des jeunes. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ce film, je crois, qui effectivement avait jamais vraiment été goupillé comme ça, et qui du coup, qui résonne assez fort, quoi, pour les Antillais, je crois. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, hein, tout le monde n'a pas vu. Mais... voilà, et donc, après, voilà, ce que j'essaye de faire avec mon film suivant, Parole de Nègre, c'est pour moi, oui, la continuation de ce travail, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que là, c'est plus direct. Je me saisis donc d'une archive, donc ces actes du procès de 1842. J'en extrais toutes les paroles d'esclaves, c'est-à-dire tout la retranscription des témoignages d'esclaves qui sont présents dans ce long texte. Et j'amène directement ces paroles-là à des ouvriers d'usines sucrières et je leur propose, en préalable au film, de s'en emparer et de les lire devant ma caméra. Voilà. Donc j'arrive avec cette proposition un peu baroque. Je leur explique que ces esclaves étaient des Marie Galantais, puisque le procès du maître, hein, c'est le maître qui est accusé. L'esclave qu'il a assassiné, c'est, donc, son habitation était à Marie-Galante. Bref, je leur donne quelques explications comme ça. Et je m'attends à... Enfin, j'attends leur verdict. Je suis là dans une réunion avec tous les responsables syndicaux, l'usine, les chefs de machin, etc. Et ils réfléchissent 10 secondes et ils me disent « Ouais, on va le faire ». Ils comprennent tout de suite de quoi je parle. Et donc, voilà, ça, c'était le point de départ de ce deuxième film. Donc là, j'ai vraiment restitué, puisqu'on disait ça tout à l'heure, ce fragment de mémoire à ceux qui, très spontanément, se reconnaissaient comme les héritiers de cette mémoire et pour qui... les esclaves dont je parle, enfin dont l'archive parle, sont ce qu'ils appellent leur père, tout simplement. Donc il y a voilà. Et du coup, autant pour le pays à l'envers, je vais essayer de chercher dans les coins ces traces un peu évanescentes. Autant là, j'y suis allée direct. Et alors parce que sans doute c'est à Marie-Galante, parce que ce sont des ouvriers du sucre, parce que ce sont des gens extraordinaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, le relais s'est pris directement et en conscience. Et sans aucune hésitation, quoi. Donc, ce qui n'était pas du tout... Enfin, à la limite, c'est pour le pays à l'envers, c'était plus compliqué. Il fallait vraiment aller chercher, encore une fois, aller chercher les micro-traces dans les échos, quoi. Alors que là, je leur dis, bon, moi, je vous amène ça parce que je me dis que cette histoire va vous concerner. Et ils disent, bien sûr, c'est notre histoire. Donc, fais voir. Et voilà comment le film démarre.
Je t'ai envoyé un message. Hein. Moi, j'ai énormément. Ça doit être au moins la 10e fois que je le vois, si ce n'est plus. Je t'avais demandé l'autorisation, Sylvain, de le passer avec mes étudiants du groupe franco-jamaïcain d'enseignement. Et donc, je l'ai vu de multiples fois. Et à chaque fois, et là, avec les coupures, donc, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Et. Moi, je suis très sensible à la thèse, entre guillemets, que tu portes, parce que c'est celle que je souhaite porter, mais du point de vue académique, avec sa froideur, qui est celle de l'histoire, d'une histoire où on a de véritables acteurs qui produisent leur histoire. Et c'est vrai que cette projection dans une autre histoire est quelque chose de... qui demande à pourquoi toutes ces tendances... qui passe par-dessus cette histoire très belle, comme tu dis, noble, de la conquête, de la reconquête de soi après l'esclavage, même avant, quand tu le dis très bien en lisant la circulaire que tu as trouvée dans les archives de ce jardin que le maître autorise pour soi-disant empêcher le marronnage, mais qui va être le lieu de cette reconquête de soi. Et moi, j'ai vraiment ton film, je trouve que c'est l'équivalent de l'émotion que j'ai eue, mais à qui je reproche quand même des choses, avec Chamoiseau, avec Texaco, quand il y a tout le passage de Texaco qui parle de la conquête des mornes, de la conquête de ces terres paysannes, sauf que Chamoiseau, il engloutit cette expérience dans l'usine, il l'engloutit, il l'a fait disparaître, et toi, tu l'as fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je trouve vraiment, à chaque fois, c'est vraiment cette trilogie que tu instaures entre la généalogie, le nom, qui est d'une importance phénoménale, avec toute cette imbriglio, avec les surnoms, on ne sait pas si ces surnoms cachent, donnent, ou on ne sait pas s'ils protègent, etc. Ces terres qui sont essentielles et ces corps. Là, la ponctuation par la chorégraphie de Léna Blou et par-dessus tout, moi, c'est ce Michel Rogers. Là, je le trouve, mais c'est un personnage mais magnifique. Il a fait la généalogie de la Guadeloupe. Il a fait la parenté même de la Guadeloupe.
De tout, oui, oui, il a fait toutes les familles noires et après, il a fait toutes les familles indiennes.
Ouais. Et ce qui est magnifique dans ce qu'il dit, parce que je pense que ce qu'il dit, c'est hyper important. Bon, tout, bien sûr, on ne s'aime pas, le peuple Nesuix, mais ce qu'il dit surtout, c'est pour moi qui est très important, c'est on recherche le premier. Parce que les autres, on les connaît. Il y a une connaissance généalogique qui est pour moi niée, alors que même ton père, à un moment donné, te décline les noms des vides et tout ça. Il y a une généalogie de la parenté qui est très forte, mais qui s'arrête à un moment donné. Et voilà ce que je voulais dire. Et là, ce soir, bon, je ne vais pas aller plus loin, j'aurais des tas de choses à dire sur ce film, tellement qu'il est inspirant et qu'il, si tu veux, il charge de ce que nous, on ne sait pas faire dans le travail scientifique. C'est cette grande humanité, quoi, cette sensibilité que l'on ne sait pas retranscrire et qu'on nous interdit en fait, de retranscrire dans l'écrit académique. Et moi, je me dis, c'est la part magnifique de l'écho poétique. C'est une véritable poésie, ton film. Et donc, moi, je ne me lasse pas. Et ce soir, j'ai compris quelque chose. Et c'est pour ces paroles de Nègre, m'avait interrogé, je te l'avais dit, hein, que je voulais le revoir. Et je crois que j'ai compris ce soir ce qui m'a interrogé. C'est cet amour de l'usine. Il y a une sorte d'amour de l'usine. Je l'avais déjà perçu dans Le Pays à l'envers et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette nostalgie et ce combat pour l'usine. Et en fait, il y a dans l'appropriation de l'usine, à partir où elle devient un outil de combat, un outil de résistance, il y a l'amour de l'usine et il y a la décolonisation de l'usine. On le voit, et ces jeunes femmes qui ont envie de connaître l'histoire de l'usine. Et toi, dans le Parole de Nègre, c'est exactement ça que tu nous montres. Cette reconquête par l'usine et non plus par le jardin, de cette vieille machine mais qui est extraordinaire. Et je viens de le comprendre ce soir. Et tu sais, tu dois connaître sûrement le poème de Derek Walcott, l'absence de ruines, toute cette absence de monument qui fait qu'on ne peut pas se projeter. On n'a pas. Et là, on a le monument réapproprié et cette projection à travers le monument qui est l'usine. Et je ne comprends pas pourquoi le Memorial Act a bousillé l'usine, puisque Darboussier a disparu avec le Memorial Act. Et qui, comme si on avait enlevé. Je me dis, c'était ça qu'il fallait garder. Certes, faire ce monument, cette construction qui en soi est magnifique. Hein, mais pourquoi ne pas avoir gardé l'usine ? Il n'y a qu'un petit vestige.
Il reste que le bâtiment en béton administratif. Bon, c'est vrai qu'à leur décharge, il ne restait pas grand-chose. Et surtout, l'usine, elle a été démantelée tout de suite, enfin, Darboussier. Hein, 2 ans après sa fermeture, toutes les machines sont parties sur des barges à la ferraille pour être vers les Antilles, vers la Dominique, je crois, non pas la Dominique, vers la République dominicaine. Donc, c'était aussi une carcasse vide. Il ne restait quasiment aucune pièce, vraiment des bribes de machines. Après, il y a une autre très très belle usine qui est Grosse Montagne, qui elle aussi, alors elle qui s'est écroulée, qui dans laquelle on peut plus rentrer, c'est devenu une réserve pour une espèce très rare de chauve-souris. Mais par contre, il y a un autre endroit qui est encore une autre usine, l'usine Beauport, qui est devenue un espèce de musée de la canne. Donc, et ça, c'était avant le Mémorial Act. Donc, je pense que voilà. Et objectivement, c'est vrai qu'à Darboussier, il ne restait plus grand chose. Par contre, il y avait quand même cette mémoire, enfin, les gens. Et donc, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, quelque part, le Mémorial Act, oui, c'est quand même est devenu assez opaque, quoi. C'est-à-dire que... Alors, il y a eu une petite expo sur la mémoire de Darboussier au tout début, mais c'était une expo temporaire, un peu cheap. Et oui, il y a quelque chose qui n'a pas pénétré le Mémorial Act de cet environnement. Enfin, on était sur un lieu de mémoire, quoi. J'ai tourné sur ce terrain vague, tout ce qu'on voit là au bord de l'eau... C'est là où maintenant il y a le Mémorial Act. Quoi. Alors bon, c'est souvent sûrement le cas, mais c'est vrai que j'ai trouvé que voilà, il y avait peu de porosité entre ce bout de terre avait à raconter et le monument qui a été construit. Mais bon, après voilà, il est pas trop tard. Mais en tout cas, pour parler de l'usine dans laquelle j'ai tourné, qui est donc une des deux dernières usines de Guadeloupe et qui est la plus ancienne et la plus vétuste de loin, celle de Marie-Galante. Pour moi, c'était comme si tout d'un coup le fantôme de Darboussier, quand je suis rentrée dans cette usine, bien sûr, j'étais évidemment à Darboussier, quoi. Voilà, tout d'un coup, c'était un voyage dans le temps en même temps. Donc cette usine qui fonctionne encore est déjà une archive, enfin. Mais effectivement, c'est très vrai ce que tu dis, cette réappropriation du monument. Voilà, on est passé du moulin à l'usine, quoi. Et autant les moulins ne sont que les traces de l'habitation. Et je ne crois pas qu'ils soient investis de grand-chose d'autre par l'imaginaire antillais. Voilà, c'est ce que les touristes photographient, hein, Marie-Galante, on dit l'île aux 100 moulins. Mais je ne sens pas comme ça de rapport vraiment d'appropriation entre le moulin et les gens. Il y a certains moulins qui ont été transformés en maisons, mais jamais par des Antillais, en fait. Donc, c'est une hypothèse, hein, que je fais. Je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais bon, en tout cas, pour moi, le moulin reste quand même la trace ineffaçable du cœur de l'habitation, vraiment, du cœur de la souffrance. Et l'usine, alors l'usine, elle est née après. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une appropriation incroyable de l'outil de travail par les ouvriers qui vient de la même histoire, hein, mais qui raconte complètement autre chose. Même si, les propriétaires de ces usines restent les béquets au bout du compte, enfin, la façon dont ils le vivent, ces ouvriers de Marie-Galante, c'est vraiment leur usine, quoi. C'est vraiment le lieu de leur accomplissement, de leur savoir-faire. C'est vraiment un lieu de construction, quoi. Et d'ailleurs, là, j'ai projeté le film à Marie-Galante il y a quelques jours, et une bonne partie des ouvriers étaient là. Et tout de suite après la projection, Jocelyn a pris la parole pendant un quart d'heure, enfin, un plaidoyer en créole parce que cette usine, elle est menacée, quoi, un plaidoyer politique pour dire qu'il fallait pas sacrifier cette usine, parce que voilà, c'était impensable qu'on la laisse mourir, qu'il fallait la garder parce qu'elle venait de loin et qu'il fallait la garder pour demain. Enfin, c'était vraiment une déclaration enflammée. Et c'est vrai que le lien avec l'usine, il a quelque chose à voir avec l'affranchissement par le travail, quoi. C'est vraiment la migration du travail du champ de l'esclavage. Mais en même temps, c'est le même travail. C'est ça qui est très troublant, quoi. Et finalement, ils ont réinventé leur héritage en se l'appropriant à la fois comme planteur et comme ouvrier, parce qu'il y a aussi une grande fierté du planteur. On pourrait imaginer que la canne à sucre soit devenue une plante honni sous ses latitudes. On peut planter d'autres trucs, hein, je veux dire, et on pourrait détester la canne. Et en fait, non, les gens aiment la canne passionnément. Et ils la coupent toujours au sabre, comme avec les mêmes gestes et les mêmes efforts que leurs ancêtres esclaves. Hein, parce que quand on coupe la canne au sabre maintenant, il y a 250 ans, c'est toujours aussi dur. Enfin, maintenant, ils ont des chaussures, mais sinon, en gros, c'est le même geste, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très troublant, cette imbrication. Mais il y a quelque chose dans le travail... qui est vraiment un objet, alors pour le coup, d'études super passionnants aussi, quoi, que j'ai fait que fleurir avec le film. Mais je prétends pas avoir tout tout compris, mais je pressens qu'il y a là quelque chose de très très fort. Parce que si quand je montre le film à Pointe-à-Pitre, les gens me disent, mais c'est incroyable, on ne soupçonne pas qu'il y a encore des ouvriers en Guadeloupe, alors qu'ils les ont sous le nez, quoi. Ils mangent du sucre de Marie Galante tous les jours. Donc, il y a un effacement aussi de ça, quoi. Ils sont passés, c'est comme, voilà, ils sont censés ne plus exister, quoi. Alors que, et puis il n'y a pas des ouvriers, il y en a pas, il y en a aussi sur les routes, hein. Enfin, des gens qui travaillent de leurs mains en Guadeloupe, en fait, il y en a partout, mais on ne les voit pas. Ils ne font pas partie du paysage, de l'imaginaire social, j'allais dire, d'une société qui serait devenue société de services et de tourisme, enfin, qui serait hors sol. Finalement, les Antillais intègrent l'image qu'on leur projette d'eux-mêmes, quoi, j'ai l'impression.
Je voulais juste te demander, alors je voulais te confirmer, bon, bah, si besoin était, hein, cette hypothèse de Michel Rogers sur le fait qu'il y ait du parrainage en même temps que la transmission d'un nom par une famille de blancs signale effectivement, enfin moi j'ai retrouvé un seul cas comme ça dans les généalogies, un certain Lacaille qui avait été dans l'esclave, il s'appelait Montaigne Lacaille, donc il y a quand même, toi la particule est partie, lui c'est Montaigne qui est parti, Lacaille est resté, et c'était un chef insurrectionnel de l'insurrection du Sud, et qui était décrit comme blanc, il était mulâtre, en fait très clair de peau, et donc il y a de fortes chances que la parenté soit celle du maître qui a franchi la mer, d'autant qu'ils étaient le couple présent pour le baptême.
Donc exactement la même histoire.
Et c'est vrai que c'est extrêmement rare, c'était interdit d'ailleurs en 1848, au moment de donner les noms citoyens, de donner un nom de maître. Il y avait une interdiction formelle. Et je voulais juste te demander une question un peu les deux dents pierre. Tu as remonté donc mais est-ce que tu en connais aujourd'hui?
Alors c'est même pire que ça, c'est qu'en fait quand j'ai commencé à travailler comme jeune monteuse, un de mes premiers, enfin travail court, hein, je sais plus, je suis montée, voilà. Et mon employeur, donc le producteur, s'appelait Émeric de Dampierre. Et donc, j'ai donc déjeuné avec ma réalisatrice et le producteur, très sympa au demeurant, et ma réalisatrice a plaisanté en disant « Ah ah ah, vous avez presque le même nom, mais vous n'êtes vraisemblablement pas de la même famille. » Et Émeric de Dampierre a dit « Écoutez, détrompez-vous, il est possible que si. » Et donc, il a raconté l'histoire de sa famille, de ses ancêtres ayant fait souche, machin. Mais ça m'est arrivé il y a très, très longtemps. Donc, j'avais retenu cette anecdote, mais voilà, je n'avais pas été plus loin. Et du coup, bah, quand je me suis mis à faire le pays à l'envers, j'ai repensé à Émeric de Dampierre. Je l'ai retrouvé très facilement. Je lui ai rappelé notre rencontre incroyable, et donc on a fait tout un bout de chemin ensemble. Donc j'ai tenté de filmer son château familial, mais on m'a pas laissé rentrer parce que lui-même était fâché avec l'oncle qui machin tout ça. Et puis en fait, ce qui était très drôle, c'est ce Émeric de Dampierre était le seul de toute cette vaste famille à s'intéresser à cette période de l'esclavage, au point qu'il écrit des romans d'aventures, de corsaires, etc., des romans historiques, en fait. Il est plus producteur maintenant, il est romancier. Donc, il a plongé complètement dans cette histoire, alors de son côté à lui, si j'ose dire, mais quand même, et au milieu d'une famille qui l'a complètement effacée et chez laquelle il est totalement même inconvenant et tabou d'évoquer cette histoire. Donc, il a essayé de me faire entrer dans le château, mais ça n'a pas été possible. Par contre, il m'a fait rencontrer une de ses vieilles tantes qui, elle-même, avait vécu toute sa vie à La Réunion, mariée avec un béquet local. Enfin, et j'ai pris le thé avec cette madame qui s'appelait plus de Dampierre, et elle m'a traitée comme une vieille cousine de province. Enfin, j'ai vécu des trucs absolument hallucinants avec Émeric. On est allé à Dieppe, puisque c'est là que son ancêtre s'était embarqué en 1635 à l'âge de 13 ans, cadet d'une famille ruinée. Enfin bref, c'était une histoire absolument, enfin très très intéressante, mais bon, évidemment, qui n'est absolument pas rentrée dans le film. Mais du coup, j'ai découvert cette histoire-là de l'autre côté, et c'est pas non plus sans créer des. Par exemple, Émeric, donc le seul à s'intéresser à cette histoire. Et affronter comme ça l'hostilité de toute sa famille, portant ça comme une espèce de honte, m'a révélé à la fin d'un dîner qu'il était lui-même enfant illégitime, Enfin bon, donc ça résonnait complètement mon histoire en fait avec cette histoire du nom. Voilà, il portait le nom de Dampierre et c'était un fardeau bien plus lourd à porter pour lui que pour moi. Et donc il est parti dans des confidences. Bah, et tout d'un coup, effectivement, j'aurais pu dérouler ce film-là, mais alors plutôt dans un roman ou pas ce film-là et pas ce film. Mais c'est vrai que tout d'un coup.
Un lapsus.
Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que. Ça prouve que ces histoires sont puissantes, quoi. Elles sont incroyablement puissantes dans toutes leurs dimensions. Elles s'imprègnent aussi dans ces corps-là. Enfin, je veux dire, Emmerich était vraiment travaillé par cette histoire-là et estimait que toute sa famille l'était en fait et qu'il était le seul à pouvoir mettre des mots là-dessus. Enfin, j'ai trouvé ça très beau aussi, quoi, et que ça résonne. Là encore, avec son histoire intime, avec le fait qu'il était un enfant illégitime, que sa mère avait eu en trompant son père, que donc il était, comment dirais-je, illégitime à porter cette particule et ce nom, et qu'en même temps il le portait aussi comme un fardeau. Enfin, donc voilà, il y a un écho presque, voilà, là encore un effet miroir absolument incroyable de ce côté-là aussi, quoi. Donc ce sont des parcours qui laisse des traces, clairement, dans les généalogies et dans les inconscients, quoi. Donc voilà, mes aventures avec la branche de Dampierre, quoi. Voilà, et c'est lui qui m'a expliqué, enfin, qui m'a montré comment, effectivement, sa famille avait complètement... Enfin, qui m'a mis sur cette piste. Et du coup, effectivement, c'est vraiment ce passage par les Antilles et par l'esclavagisme qui a permis à cette famille noble de non seulement de redorer son blason, et donc de ce petit enfant de 13 ans embarqué comme mousse sur un bateau à Dieppe, deux générations plus tard, c'est un chevalier qui rentre en France juste avant la Révolution et qui refonde, qui a fait suffisamment d'argent pour regagner un titre et pour refonder toute une lignée, quoi. Ne peuvent pas faire l'impasse là-dessus, mais pourtant ils le font quand même. Donc ils ont effacé cette période-là. Donc il y a une espèce de trou quand même de quasiment 100 ans ou 150 ans dans leur histoire familiale, quoi. Et ce trou-là, c'est le sucre et c'est les Antilles.
On avait Philippe Artière qui a étudié un tableau de Degas dont je ne vais plus me rappeler, c'est le Club des Cotonniers, je crois, hein. Qui montre, je ne sais plus si c'est le titre exact du tableau, qui montre le coton qui, par rapport à ça, sur ce tableau, il n'y a que des blancs réunis dans un bureau. Et le blanc du coton, qui est le silence, comme tu dis, le trou, là, c'est la canne et le sucre. Et ça m'évoque cette étude qu'il a faite. Quand j'ai vu le titre de son ouvrage, je me suis dit, il a dû passer à côté du truc, là, il nous décrit un tableau, etc. Non. Il n'est absolument pas passé et il a étudié justement ce blanc du coton qui est aussi le silence, le déni, l'absence de tout ce qu'il y a derrière et qui est primordial.
C'était surtout sa famille. En fait, c'est Degas peint sa famille.
D'accord.
Oui.
Le bureau de coton. Sa famille avait
fait. Hein, c'est le titre exact du tableau, hein, c'est ça. Okay. Et le titre, je crois, je ne sais plus si c'est le titre de l'ouvrage de. Je ne sais plus quel est exactement le titre de l'ouvrage de Philippe Artière.
D'accord.
Donc, je vois qu'il est 23h15. Nous sommes ensemble depuis 9h30 ce matin. Donc je pense que nous allons rentrer dans le cadre de maladies professionnelles avec les yeux complètement pétés, excusez-moi l'expression. Hein. Je crois qu'avec tout le plaisir que nous avons à être ensemble, il va falloir se laisser pour mieux se retrouver. Sylvaine, j'espère qu'on te verra à Bordeaux. Il y a le festival du film ouvrier. Je crois que j'en ai parlé. J'ai transmis l'info, mais bon, on est toujours suspendu.
Ouais.
Et si ce n'est pas en février là, parce que la programmation était déjà faite, je pense que ça sera au prochain festival du film ouvrier, donc à l'Utopia. Voilà. Pour nous autres, Ferdinand, moi, j'espère qu'on restera en contact.
Oui, je l'espère, oui.
Voilà, hein, on se voit tous les 10 ans, tous les 12 ans, c'est ça. Il faudrait qu'on se voit quand même avant la retraite. Hein. Mais maintenant, le lien est rétabli. Donc, voilà. Et puis, nous autres, Androula, on refait rebelote demain, colloque, hein, en visio. Et ben, nous tous, Nora et Esteban, on se voit à une prochaine réunion qu'on va fixer sans doute après Noël, hein, pour mieux programmer notre groupe à Genève. Voilà, et surtout cette journée restitution, là, j'ai vraiment hâte, Nora, c'est passionnant. Et merci à tous.
Merci à vous.
Merci Sylvain. Merci à vous.
Merci beaucoup.